et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à cultiver votre relation avec vous-même. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode dédié aux leviers pour améliorer sa relation avec soi. Dans la première partie, je vous ai parlé de la connaissance de soi et de la connexion à soi, deux piliers indispensables pour identifier vos propres besoins et avoir la capacité d'y répondre. Si vous n'avez pas encore écouté cette première partie, je vous invite à commencer par celle-ci avant de revenir ici. On va donc continuer à voir les grands champs d'exploration à investiguer quand on souhaite améliorer sa relation avec soi-même. Le troisième levier dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'est cultiver son alignement. Voici comment je définis l'alignement en quelques mots. L'alignement, c'est quand il y a une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites, entre ce que vous sentez et ce que vous dites. Il y a un autre mot que l'alignement pour définir ça, c'est la congruence. C'est par exemple quand vous vous sentez bien droite dans vos bottes, parce que quand vous dites oui à quelque chose, vous le faites de bon cœur parce que ça correspond à la personne que vous êtes ou que vous aspirez à être. De la même manière, quand vous dites non, c'est pour être fidèle à vous-même, à vos besoins ou à vos valeurs. Et c'est un non qui résulte d'une chose importante pour vous que vous avez envie de préserver. Alors pourquoi est-ce que l'alignement ou la congruence sont un levier essentiel de votre relation avec vous-même ? Tout simplement parce qu'en étant fidèle à vous-même, ou du moins en ne trahissant pas ce qui vous tient à cœur, vous vous montrez à vous-même que vous êtes une personne sur qui vous pouvez compter, que vous prenez à cœur en fait vos propres intérêts. Une erreur serait de croire que servir vos propres intérêts est en contradiction avec servir ceux des autres, voire que c'est égoïste. Et la grande majorité du temps, il y a une option pour servir les intérêts des autres et les vôtres en même temps. C'est le cas quand vous acceptez d'aider votre ami à déménager samedi prochain et que vous lui signalez que vous devrez partir à 16h pour aller à votre cours de Zumba. Servir vos propres intérêts, ça peut même rendre directement service aux autres. Comme avec cette consigne de sécurité dans l'avion qui nous invite à d'abord mettre en place notre propre masque à oxygène avant d'aller aider les autres à mettre le leur. Je remarque que les personnes que je coach ont souvent tendance à avoir une opposition, voire à mettre leurs propres besoins en sourdine pour favoriser en premier lieu les attentes avérées ou présumées des autres, ce qui peut créer des tiraillements très inconfortables. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de cet état psychologique de dissonance cognitive. C'est cette tension à l'intérieur de soi quand on a un comportement en contradiction avec ce que l'on pense. On en parle notamment de plus en plus dans le monde du travail. Par exemple, quand les missions que l'on a dans son entreprise ou que notre rôle de salarié ou de manager n'est plus en cohérence avec nos valeurs personnelles. Alors on peut ressentir cet état de dissonance cognitive. Votre première mission en tant que meilleur allié, c'est déjà de reconnaître ce désalignement quand il se présente. Il peut se manifester par une sensation de tiraillement, par exemple, par un doute persistant, des ruminations, des tergiversations, mais aussi de la frustration ou même de la jalousie. C'est cette sensation que quelque chose cloche, qu'il devrait se passer autre chose là dans votre présent, dans votre environnement ou dans votre comportement, cette autre chose pour que vous vous sentiez plus à votre place. Et reconnaître que l'on n'est pas aligné est une prise de conscience qui peut prendre un certain temps. Parce que c'est dur à accepter, qu'on peut parfois être déçu de se rendre compte de ça, qu'on peut avoir peur des conséquences pour le reste de sa vie, ou alors qu'on peut culpabiliser de ressentir ce désalignement alors qu'on a sur le papier tout pour être heureux ou heureuse. Si vous voulez creuser la question, je vous conseille vivement d'aller voir du côté de Robert Diltz, D-I-L-T-S, et des niveaux logiques. C'est un auteur américain qui a formalisé une pyramide de 6 niveaux pour analyser les situations et les comportements des individus. En bas, il y a l'environnement, puis les comportements, et au fur et à mesure que l'on remonte, les capacités, les croyances et valeurs, l'identité et le sens. Ces niveaux sont tous liés les uns aux autres et agissent entre eux. Et tout l'enjeu de l'alignement, c'est de rendre cohérent ce qui se passe entre ces niveaux et en particulier entre le niveau des comportements et celui de l'identité. Quand on a pris conscience d'un désalignement, le travail de meilleur allié, c'est d'aller attentivement observer avec curiosité ce qui se passe pour soi. À quel niveau se situe le nœud? Où est-ce que ça coince? Et c'est là que le premier levier de la connaissance de soi est d'une grande aide, parce qu'on peut alors s'appuyer sur ce que l'on connaît de ses valeurs, de ses besoins, pour pouvoir aiguiller cette recherche de désalignement. Il est tout à fait courant et probable que toutes vos actions ne soient pas pleinement alignées avec qui vous êtes à tous les moments de votre journée. Et je ne vous invite pas à viser immédiatement l'alignement à 100%. Commençons déjà par être alignés sur ce qui nous semble essentiel. Peut-être le sens de votre travail, votre relation amoureuse ou avec vos amis, votre relation à la parentalité, votre manière d'aborder ce nouveau projet dans lequel vous vous lancez, votre style de management ou le programme de vos prochaines vacances. Votre autre rôle en tant que meilleur allié, c'est de vous soutenir dans cette quête d'alignement, de vous aider à vérifier quelle est la décision la plus alignée pour vous et de vous soutenir dans votre choix. Je vais vous donner un exemple où je me suis sentie alignée. C'est un exemple du quotidien qui m'est arrivé il y a peu de temps. Il y a quelques semaines, j'ai passé un week-end à Marseille avec une dizaine de copines à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille. C'était un week-end avec plusieurs activités en groupe, des sorties au resto, des apéros, de longues discussions entre filles, beaucoup de choses que j'adore, et donc j'attendais ce week-end avec impatience, et c'était super. Mais comme je le disais dans le premier épisode, pour me sentir bien dans un groupe pendant plusieurs heures, moi j'ai besoin de m'éclipser et de m'isoler un peu. Donc le samedi, j'ai prévenu que j'irais me promener en solo le dimanche matin dès mon réveil, et je me suis assurée que ça n'impacterait pas le programme du groupe. Il y a quelques années, je ne me serais pas du tout permis de le faire, même avec des amis. Parce que je me serais dit « Ah, mais c'est pas cool d'abandonner le groupe, et puis si j'avais l'air asocial, et elles vont peut-être croire que j'ai un problème si je m'isole, et puis si tout le monde fait ça, alors ça serait vraiment pas chouette pour la future mariée. » Mais si j'étais restée à cause de ces doutes ou ces peurs, je serais passée à côté de choses très importantes pour moi, comme explorer une ville que je ne connais pas, ce qui correspond exactement à l'envie de dépaysement qui fait partie de mes aspirations pour cette année, de me laisser surprendre en promenant par hasard dans les rues, en suivant mon feeling, c'est quand même plus délicat à faire quand on est 10, et puis me connecter à mes sens, les odeurs du marché, la chaleur des rayons de soleil, la beauté du port de Marseille vue depuis la colline, prendre un bon thé. Bref, voilà, bouger mon corps et sentir l'énergie qui remonte quand je vais marcher. Donc c'est pas juste le besoin de m'isoler et de me couper du groupe, non, c'est vraiment une permission que je me donne de vivre les choses telles que j'ai envie de les vivre parce que ça compte pour moi. Et j'ai rejoint les autres filles au restaurant le midi, de bonne humeur, pleine d'entrain et contente de les retrouver pour la suite du programme. Et j'étais bien en phase avec moi-même, parce que j'ai pu honorer ma valeur d'amitié et mes besoins. Être son ou sa meilleure alliée, c'est vérifier que vos choix, vos comportements, ce que vous dites ou ne dites pas est le fruit de vos envies, le reflet de vos valeurs, et que ça correspond à la personne que vous voulez être. Que ce n'est pas une décision prise par la peur de déplaire, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, la honte ou la culpabilité ou je sais pas quoi d'inconfortable à ressentir. Quand vous avez du mal à prendre une décision alignée, vous pouvez aller observer où se situe le nœud du problème. Est-ce que vous pensez quelque chose mais ne le dites pas? Ou est-ce que vous ressentez quelque chose mais vous n'arrivez pas à poser les actions alignées avec ce ressenti? Bref, où est-ce que ça se situe la contradiction? Et lorsque vous avez situé la contradiction, vous pouvez alors essayer d'identifier quelle est l'émotion qui se trouve en vous. Est-ce que c'est de la peur? De la culpabilité, de la honte. Et qu'est-ce qui est le motif de cette honte, de cette peur, de cette culpabilité? Qu'est-ce qui crée ça pour vous? Et rien que de faire ça, ça va déjà vous permettre de faire un pas supplémentaire, puisque vous saurez alors sur quoi vous pouvez travailler. On verra dans d'autres épisodes de podcast comment on peut travailler avec sa peur ou ses autres émotions. Moi, j'adore le sujet de l'alignement, en particulier la manière dont il s'incarne dans nos relations avec les autres et dans notre sphère professionnelle. On aura plein d'occasions d'en parler dans de futurs épisodes. Le levier numéro 4, c'est la capacité à rêver et à s'aider à avancer vers ses rêves. Alors, je vais expliquer tout ça. Avancer vers ses rêves. Ça peut sembler très conceptuel ou philosophique ou bisounours, dit comme ça. Donc, de manière plus pragmatique, ça signifie savoir où on a envie d'aller. C'est choisir quelle tournure on veut donner à sa vie future. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, en fait, pour cette vie future ? À quoi on aspire ? Et c'est exactement à ça que l'on fait référence quand on se propose de développer une vision pour sa vie ou que l'on parle de l'état désiré en coaching. Je sais que beaucoup de gens pensent ne pas avoir de rêve. C'est d'ailleurs un sujet dont on parle peu, nos rêves. Peut-être par peur de sembler idéaliste, de ne pas avoir la tête sur les épaules, d'être moqué ou d'être déçu finalement de notre réalité. Et je crois qu'on n'est pas habitué à rêver, car ça fait plus appel aux émotions, au plaisir, à la joie, alors que notre cerveau rationnel, lui, il aime plutôt qu'on ait les pieds sur terre et en alerte face aux risques et aux obstacles potentiels. Alors quel rapport ici avec le fait d'être son ou sa meilleure alliée ? En fait, moi je suis convaincue que être son ou sa meilleure alliée, c'est aussi dessiner et cultiver ses rêves, ou plus précisément son rêve de vie, comme le dit le psychosociologue Jacques Salomé dans son ouvrage « Vivre avec soi », où il dit que le rêve de vie, c'est un rêve constitué d'un ensemble d'images, de souhaits, de désirs que nous projetons dans le futur. La plupart d'entre nous n'avons encore jamais pris le temps d'imaginer à quoi ressemblerait leur vie de rêve. Et je ne parle pas du tout de la vie de rêve selon les films ou la société ou ce qu'on vous a dit à l'école ou pendant vos études. Je ne parle pas de la réussite au sens classique, argent, amour, gloire et beauté sous les cocotiers. Enfin, pourquoi pas, hein ? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une recette unique et que c'est important de trouver celle qui est propre, avec vos ingrédients. La question à se poser, c'est à quoi ça ressemblera pour vous de vous lever le matin en ayant hâte de vivre cette nouvelle journée ? Qu'est-ce que vous vous apprêteriez à vivre et à ressentir ? Et qu'est-ce qui fait que vous serez satisfait le soir en vous couchant ? Alors je parle de la vie dans laquelle vous vous ressentirez de la joie, de l'alignement et dans laquelle vos valeurs seraient satisfaites. Du contexte en fait dans lequel vous rêveriez d'évoluer pour que tout ça puisse se passer. Et en fait, c'est tellement rare de se poser ces questions que c'est encore plus rare de prendre le temps de chercher ses propres réponses. On se dit parfois que c'est pas accessible, qu'il y a trop d'obstacles ou qu'il faudrait avoir de la chance parce qu'on ne veut pas se plaindre de la vie qu'on a déjà, qu'on va pas être trop gourmand et parce que parfois peut-être que c'est trop tard, qu'on n'a plus vraiment le choix, que la vie c'est pas le monde des bisounours et qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais déjà pour avancer en direction de son rêve de vie, il faut pouvoir faire émerger de soi ses idées, ses pensées, ses aspirations, les affiner et décider vraiment consciemment d'avancer vers ça. Et je suis persuadée que être son ou sa meilleure alliée, c'est se donner le temps pour les faire émerger, les faire évoluer, les affiner, tous ces rêves. À quoi est-ce que j'aspire vraiment, concrètement, et à quoi ça va ressembler ? Ces questions, vous pouvez vous les poser au sujet de votre travail, de votre couple, de vos relations amicales, de votre corps, de votre lieu de vie, du monde dans lequel vous avez envie de vivre. L'important, c'est de commencer quelque part, peu importe où. Et si c'est plus facile, vous pouvez commencer par déterminer ce dont vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Ça pourrait d'ailleurs faire émerger les contours d'une nouvelle destination qui vous attire plus et vous appelle. Pour ma part, la sphère de ma vie pour laquelle mes rêves ont le plus évolué ces dernières années, c'est la sphère professionnelle. Il y a 7 ans, la vision que j'avais pour ma carrière était d'évoluer dans une entreprise internationale de grande taille, dans une grande ville, avec des perspectives d'évolution et un statut social de cadre. J'aspirais à apprendre, à innover, à rendre un service de qualité à un maximum de personnes et à côtoyer des collègues, des personnes très différentes. Mais en 2017, j'ai commencé à ressentir du désalignement. Mes actions et mon environnement professionnel n'étaient plus suffisamment cohérents avec mes valeurs d'utilité sociale, d'écologie et de considération de l'autre. Ça maintenant, je peux le dire comme ça avec du recul, mais sur le moment, en fait, je savais juste que c'était super désagréable, voire douloureux, et que mon quotidien, c'était beaucoup de doutes, de rumination, de boule au ventre et de frustration. Ça m'a pris un certain temps pour faire les ajustements nécessaires, parce que j'ai tâtonné et que c'était confus. Je me demandais souvent, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond ? Mais j'avais beaucoup de mal à répondre. Alors j'ai opéré des changements progressifs pendant 2 ans, en me formant à l'intrapreneuriat et en lançant un projet d'utilité sociale dans l'entreprise, puis en changeant complètement d'entreprise pour créer un tiers-lieu, puis en déménageant dans un autre lieu de vie, en louant d'abord et pour tester une maison avant de m'installer définitivement. Enfin, définitivement, pour le moment. Et la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir posé des actions, les unes après les autres. Et c'est ça qui a fait le changement. Et il y a un an, j'ai senti du désalignement qui revenait. C'était moins douloureux car je l'ai reconnu plus tôt. Et puis j'ai décidé de me faire accompagner pendant quelques mois par une coach. Et en fait, je voulais répondre à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment au fond ?» Et c'est ce travail d'introspection de fond qui m'a enfin donné la clarté qui me manquait. C'est un peu comme une eau trouble qui devient limpide quand on l'a laissée décanter. Alors j'ai opéré une nouvelle phase de réalignement progressif en ayant appris un nouveau métier, en créant mon entreprise et en cumulant plusieurs activités en parallèle. Alors j'ai conscience que ça peut sembler capricieux ou indécis pour certaines personnes, ou alors courageux et complètement hors de portée pour d'autres. Et moi aussi, en fait, j'ai pensé toutes ces choses différentes à des moments différents. Mais aujourd'hui, rien n'est plus important pour moi que cette sensation vraiment agréable de savoir où je vais et d'avoir du plaisir à y aller. C'est ce qu'on ressent quand on sent qu'on est dans la bonne direction. Et c'est comme de pouvoir respirer à plein poumon après avoir manqué d'air pendant un certain temps. Et je sais maintenant précisément comment j'ai envie de contribuer à la société, comment je veux occuper mes journées, les relations que je souhaite dans ma vie, les compétences que je veux développer, ce que je veux apporter à mes proches et à mes clients, et le mode de vie que je veux avoir. Et je suis vraiment en chemin vers ça. Je parle de chemin parce que c'est un processus qui n'est jamais figé, parce que la vie n'est jamais figée, et que ce qui fait mon alignement aujourd'hui ne le sera peut-être pas exactement de la même manière demain. Et en fait, les leviers 3 et 4 fonctionnent ensemble. Parce que maintenant que je sais que quand je ressens les symptômes du désalignement, c'est parce que je m'éloigne de mes projets de vie, de mon rêve de vie, et bien maintenant la meilleure alliée en moi, c'est me taper doucement sur l'épaule et me rappeler ce que je souhaite quand j'ai besoin de m'en rappeler. Elle m'aide à prendre des décisions pour les bonnes raisons, les miennes. Et maintenant, je me tourne vers vous pour vous demander ce que vous aimeriez faire entrer davantage dans votre quotidien. Est-ce que vous avez une vision claire, précise, ou alors plutôt confuse de ce à quoi vous aspirez ? Est-ce que vous savez de quoi vous seriez fier dans quelques années en l'ayant accompli ? Pour commencer, vous pouvez même vous demander à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une baguette magique. Comme ça, ça vous enlève un peu toutes les contraintes que notre cerveau nous propose immédiatement et on laisse juste la place aux rêves. Parce que toutes ces réponses, elles vont aider votre meilleur allié à l'intérieur de vous à faire de meilleurs choix. Donc pour résumer ce quatrième levier, vous pouvez retenir qu'imaginer sa vie de rêve, c'est un travail d'introspection très éclairant et stimulant, mais qui demande un effort conscient et donc du temps. Et deuxièmement, quand on sait dans quelle direction on veut aller et qu'on aime les raisons qui nous pousse à y aller, alors le rôle de notre meilleur allié à l'intérieur de nous est vraiment plus simple. Je passe maintenant au levier numéro 5, se traiter comme une amie ou comme un ami. Ce cinquième levier, il est d'une très grande importance, c'est un fil rouge pour chacun des leviers précédents. Et ce que je veux dire par se traiter comme une amie ou comme un ami, c'est se traiter soi-même avec le respect et la considération que vous portez à vos amis les plus chers. C'est être dans une démarche de présence, de solidarité et de bon compagnonnage avec soi-même. Et plutôt que de vous dire comment se traiter comme une amie, je vais plutôt vous parler de ce à quoi ça ne ressemble pas. Donc, ce n'est pas mal se parler ou parler de soi d'une manière dévalorisante. C'est l'inverse d'un discours intérieur qui critique durement et juge avec intransigeance tout ce que vous faites. C'est l'inverse d'un fond sonore qui s'applique à voir tout ce qui est négatif ou devrait être mieux fait. Et les mots ont un sens, même quand ce sont des habitudes de langage ou sous couvert d'humour. Par exemple, si vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête, oh, je fais toujours n'importe quoi, oh, puis qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui ?» Bref, toutes ces phrases-là qui nous dévalorisent, l'air de rien, qu'on peut prendre plus ou moins au sérieux, mais qui sonnent comme des vérités ou des sentences à notre propos. Et à la place, la meilleure alliée en vous, elle va plutôt chercher de la douceur, du soutien, de l'encouragement. L'autre chose qu'on ne fait pas quand on se traite en ami, c'est être trop exigeant avec soi-même. Et une manière simple de l'identifier, c'est de se demander si la relation que vous entretenez avec vous-même pourrait s'apparenter à du harcèlement en la transposant sur d'autres personnes. Oui, je parle bien de harcèlement. Par exemple, j'ai accompagné un coaché qui est entrepreneur et qui a des démarches administratives à réaliser. Et à chaque fois qu'il commençait à les faire, il se disait à lui-même qu'il était trop bête, qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre ce qui était attendu, qu'il était comme ça et puis qu'il pourrait jamais s'améliorer. Et il se rappelait comme ça toutes les fois où il pensait avoir manqué d'intelligence par le passé. Et quand il s'est imaginé de dire cela à un ami qui entreprendrait dans les mêmes démarches, il s'est rendu compte de la dureté de ses propos et de ses pensées. Ça a été comme un révélateur de la relation néfaste, voire toxique, qu'il pouvait entretenir avec lui-même. En se traitant en ami, on fait aussi preuve d'honnêteté. C'est-à-dire que l'on choisit de ne pas se voiler la face. À la place, la meilleure alliée en vous saura vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Et vous saurez faire preuve de cette honnêteté envers vous-même, car elle ne se fera pas au prix de la dévalorisation et de l'auto-flagellation de vous-même. À la place, il y aura de la douceur et de la gentillesse, deux choses qu'on ne nous apprend pas vraiment à nous donner à nous-mêmes. Ce qui est dingue quand même. Enfin, quand je parle de se traiter en ami, je pense également à la manière dont on traite son propre corps. Je ne vais pas trop entrer dans le détail sur ce point aujourd'hui, mais je tenais quand même à en glisser un mot, parce que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Donc je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, hein, mais bien se traiter, c'est donc être attentif à ce qu'on se dit et aussi à la manière dont on traite son corps, par la qualité de la nourriture et du soin qu'on lui apporte notamment. Je m'arrête là pour ce dernier levier et pour cet épisode. Je me rends compte que cet épisode a été un peu plus long que je ne pensais, même découpé en deux parties. Voilà, je voulais pas trop rentrer dans un exposé, simplement vous donner les premières bases de ce qui se cache pour moi dans l'idée d'être son ou sa meilleure alliée. Donc pour rappel, levier numéro 1, c'était la connaissance de soi. Le numéro 2, la connexion à soi. 3, l'alignement. 4, la capacité à rêver et à se faire avancer vers ses rêves. Et 5, la relation d'amitié qu'on entretient avec soi-même. Vous aurez compris que devenir son ou sa meilleure alliée, ça ne se décrète pas une bonne fois pour toutes. Ça se pratique et ça s'entretient dans la durée. Avec le terme « meilleur », quand je parle de meilleur allié, je ne vise pas du tout la perfection. Ni je ne vous invite à être votre meilleure version de vous-même. Mais plutôt une version de vous que vous aurez plaisir à côtoyer dans la poursuite de la vie qui vous ressemble, dans les bons moments comme les moins bons. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans un prochain épisode de Meilleur Allié. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. À très bientôt !